Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
La vieille dame et les brioches d'or. Dans un village niché entre deux bras du fleuve, dans une maison toute bizarre, habitait une vieille femme. Elle passait ses journées affairées dans sa cuisine à confectionner les plus exquises douceurs. Les jours passaient l'un après l'autre sans que la dame, toute vieille dans sa maison toute bizarre, ne s'en inquiétât. Désormais, elle était tellement vieille qu'elle avait renoncé à faire le compte de ses années. « La mort m'a oubliée », répétait-elle, tandis qu'elle incorporait les œufs à la farine. Arriva un hiver glacial avec tant de neige qu'on commença à voir les toits s'arrondir, les cheminées rétrécir. Les journées se firent de plus en plus courtes et des petites lumières apparurent dans les rues, signe que Noël approchait. Dans sa maison toute bizarre, la toute vieille s'affairait plus que jamais. La pièce s'emplissait d'une fumée au parfum sucré de mandarine. Dans un chaudron, la dame toute vieille mélangeait du fruit, de la cannelle et un miel qu'elle faisait couler en cascade, composant une pâte onctueuse et épicée. La dame toute vieille était la seule à connaître la recette de la brioche de Noël. Dehors, le vent hurlait tant et plus. Il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Si dame toute vieille n'avait pas été aussi occupée avec sa pâte, elle aurait certainement vu une ombre noire avancer lentement sur le chemin blanc de neige. La mort s'était souvenue d'elle. L'ombre noire frappa à la porte de la maison toute bizarre. La dame toute vieille alla ouvrir, elle avait les joues toutes rouges, la manche retroussée et une grande cuillère en bois à la main. « Il faut que tu viennes avec moi, » dit la mort en montrant son sac. « Mais, dame la mort, pourquoi es-tu si pressée? Ne peux-tu pas attendre seulement un peu? Je dois encore fourrer ma brioche de Noël. » « Laisse-moi juste le temps de terminer. » Mais la mort n'avait jamais attendu personne. Elle s'apprêta à fondre sur la dame toute vieille. « Attends, » supplia celle-ci, « goûte au moins ce que j'ai préparé et dis-moi juste si j'ai assez mis de miel. » Sans savoir comment, la mort se retrouva avec dans la bouche une cuillère dégoulinante d'une pâte onctueuse. Elle en fut toute retournée. « Alors, que penses-tu de ce mélange ? Vois-tu, dame la mort, ce n'est rien comparé au goût que cela aura entre deux biscuits et quand le tout sera recouvert d'un glaçage. C'est dommage que tu ne puisses pas apprécier toutes ces saveurs. Si seulement tu pouvais remettre ta visite à plus tard, disons à la semaine prochaine au moins. Et à ce moment-là, tu pourras en goûter un morceau. » Et le déguster comme il se doit. Certes, la mort n'avait pas envie de se laisser charmer par les mots d'une vieille femme, et elle s'étira, se penchant pour l'attraper. Mais un minuscule morceau de raisin sec, coincé entre ses dents, lui fit sentir une saveur inconnue. Elle eut comme un vertige au contact de ce morceau de raisin. Encore plein de vie. La dame toute vieille profita de ce moment de distraction. « Alors, dame la mort, on se revoit dans une semaine. » Et d'un geste, elle lui referma la porte au nez. La mort s'en alla furieuse. C'était la première fois qu'elle manquait à son devoir. Mais les choses n'allaient pas en rester là. Comme elle aimait prendre les gens par surprise, elle n'attendrait pas une semaine. Au bout de 3 jours seulement,
Elle était de nouveau devant la maison toute bizarre. Cette fois, elle jeta furtivement un regard à travers les carreaux embués. La dame toute vieille était en train de sortir du four des biscuits ronds au cœur moelleux qui disparaissaient dans un nuage de sucre glace. La mort eut une sensation de brûlure au creux de l'estomac et elle frappa à nouveau à la porte. « Mais voilà que t'es en avance, madame la mort. Tu peux entrer quand même. Mets-toi à l'aise, » lui dit la vieille dame. La mort n'avait jamais été invitée par personne. Elle était habituée à ce qu'on la repousse et la craigne. Et sa surprise fut telle qu'elle ne sut que faire du sac qu'elle tenait dans sa main. « Allez, » lui dit la dame toute vieille, « ce n'est pas encore parfait, mais je vais te faire goûter, comme promis. » La mort fit quelques pas, curieuse de découvrir ce qui se cachait derrière le nuage blanc. Le goût, oh ! La mort en perdit la tête. La brioche sentait si fort la vie. Elle prit soin de bien lécher la cuillère, puis se prépara à remplir son sac. Cependant, pour la dame toute vieille, l'heure n'était pas venue de quitter la cuisine. « Attends encore un peu, je dois retirer les amandes du four, sinon elles vont brûler. » Et d'un geste rapide, elle sortit du four un plat rempli d'amandes dorées et de noisettes. Interloquée, la mort ferma doucement les yeux pour mieux humer l'odeur de fruits grillés. La dame, toute vieille, amusée, lui tendit une amande dorée encore brûlante. Délicieuse, dit la mort en la croquant. Mais je ne me laisserai pas charmer une nouvelle fois. Ta brioche, ça y est, je l'ai mangée. Je ne perdrai plus de temps. Viens avec moi maintenant. Mais vous savez, dame la mort, ce n'est pas pour la brioche que j'ai fait dorer toutes ces amandes. Je dois maintenant les mélanger à une mousse blanche pour faire des nougats pour les enfants. Le secret, c'est seulement d'attendre. La mort doutait. Elle tenait toujours son sac ouvert entre les mains. Bon, puisqu'elle avait déjà attendu quelques jours, ce n'était pas un de plus qui allait changer grand-chose. Juste le temps de goûter ce fameux nougat. Il neigeait quand la mort revint au village. Le chemin qui remontait depuis le fleuve était couvert d'une neige plus fraîche et blanche. En s'approchant de la maison toute bizarre, elle se sentit presque joyeuse à l'idée de croquer le fameux nougat. La mort n'avait jamais connu la joie et n'était jamais allée chez quelqu'un qui l'attendait vraiment. Alors elle frappa à nouveau. « Ah ben te voilà ! Entre donc, mais enlève-moi cette cape noire, tu vas faire peur aux enfants !» Et en prononçant ces mots, la dame toute vieille tendit à la mort un châle coloré. Dans cette tenue, la mort avait vraiment l'allure d'une grande dame. Sur la table de la cuisine toute bizarre, il y avait avec le nougat des biscuits croquants aux noix, des bonbons au sésame et au miel, des marrons glacés et dans l'air toujours le même parfum chaud d'épices de mandarine et de bois qui crépite. Les enfants accueillirent avec joie et adoptèrent aussitôt cette dame toute en couleur qui était l'amie de la dame toute vieille. Le plus jeune d'entre eux lui demanda même de lui éplucher une mandarine. Une petite goutte se forma et se mit à briller sous la capuche colorée. Mais cela ne dura qu'un court instant et la mort redevint comme elle l'avait toujours été. Elle se rappelait pourquoi elle était revenue dans la maison toute bizarre. Elle devait emporter avec elle la dame toute vieille. Comment avait-elle pu se laisser distraire de la sorte? D'un geste rageur, elle arracha son châle coloré, reprit son apparence noire. Elle chercha la dame toute vieille, mais ne la trouva pas. Elle monta les escaliers, les descendit, entra dans toutes les pièces et enfin dans un cagibi derrière la cuisine, la trouva seule, les manches retroussées, sa bouche fine plissée dans un sourire. elle était en train de pétrir une boule de pâte toute jaune, faite d'œufs, de fleurs de farine. Une bonne odeur de beurre et de levure, et dans la levure se cachait le secret de la vie. « Il faut que tu viennes avec moi !» rappela la mort tout en s'efforçant d'ignorer le parfum alléchant de la brioche. « Je dois en faire 3 autres, et cela me prendra plus d'une journée !» dit la dame toute vieille, tandis qu'elle dessinait une croix sur sa petite brioche. « La dernière pâte devra reposer toute la nuit, et après, je devrai ajouter encore du beurre pour la rendre plus savoureuse. » À ce moment-là, je la mettrai dans un moule pour qu'elle gonfle et prenne la forme d'une étoile. Alors, seulement, lorsqu'elle sera bien cuite, elle deviendra une brioche d'or. Et ce jour-là, ce sera Noël. Encore une fois, il fut impossible pour la mort de résister à la tentation de goûter ce pain qui grandissait à vue d'œil étincelant. Alors, la mort s'en alla, promettant qu'elle reviendrait le jour de Noël. Et Noël arriva, en un éclair. « Viens t'asseoir près du feu, » dit la dame toute vieille, en ouvrant la porte à la mort. « Allez, entre donc sécher tes vieux os. » La mort s'installa sur un banc. Noël, désormais, régnait en maître dans la cuisine toute bizarre. Des petits ruisseaux de sucre glace brillaient sous la flamme des bougies. Les brioches d'or étincelaient. Le son d'une clochette se mêlait aux voix et aux cris des enfants. Chacun avait devant lui une petite gaufrette croustillante à l'intérieur de laquelle la dame toute vieille avait écrit un mot en sucre et des petits secrets. Oh, le goût de la brioche de Noël réchauffa la mort plus encore que le feu dans la cheminée. Tandis qu'elle la dégustait lentement, elle laissa chaque bouchée libérer son parfum et, s'abandonnant encore, elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit la dame toute vieille qui, lui tendant un grand bol de chocolat fumant, lui dit, en s'apercevant de sa tristesse, « Allez, courage ! J'ai caché les recettes dans les gaufrettes. Elles seront toujours vivantes dans le cœur des enfants. C'est le moment pour nous de partir. » Et la dame toute vieille enleva son tablier. Désormais, il faisait presque nuit et le brouillard donnait aux maisons et aux arbres l'apparence de fantômes. Les deux silhouettes se perdirent bientôt dans la brume. Elles se firent de plus en plus petites, jusqu'à ce que la dame toute vieille, légère comme une meringue, disparut de l'autre côté du fleuve. À partir de ce jour, la mort, qui continuait de faire son travail, se montra à chaque Noël un peu plus paresseuse et gourmande de douceur. Peut-être est-ce pour cela qu'on fait la trêve de Noël. Quant à la dame toute vieille, on ne sut plus rien d'elle. Des gens disent qu'ils l'ont vue errer au-dessus des toits au cours d'une froide nuit de janvier et qu'elle remplissait de brioches et de nougats les chaussettes des enfants et même des galettes. On aurait vraiment dit que c'était elle.
Le plus gros mot du monde. Dans ce pays si lointain que même le Père Noël n'y était jamais venu. Et dans ce pays lointain vivait un petit garçon qui s'appelait Umbabaye. Oh, qu'il était beau, Umbabaye! Il était tout noir, plus noir qu'une nuit sans lune. Et il avait des yeux si brillants qu'on y voyait des millions d'étoiles. et ses cheveux étaient plus crépus que ceux d'un mouton. Ce jour-là, il jouait devant sa case quand il a vu sur la piste qui montait au village un homme qui se traînait, mais qui se traînait. Quand l'homme est arrivé vers lui, il lui a dit « Mais l'homme, qu'est-ce qui t'arrive à te traîner comme ça ? Es-tu malade ?»« Ah non, 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 je ne suis pas malade, mais c'est moi qui porte le plus gros mot du monde et qu'il est lourd à porter, alors je voudrais bien trouver quelqu'un qui me le prenne, ne serait-ce qu'un moment, pour que je puisse vaquer à mes occupations. » Oumba Baye était vraiment un gentil garçon. Il a pris le plus gros mot du monde. Et là, il s'est retrouvé lourd, lourd. Il a erré dans la savane, entraînant le plus gros mot du monde. Et c'est là qu'il a rencontré le dromadaire. « Ben alors, Oumba Baye, là, qu'est-ce qui t'arrive à te traîner comme ça ? T'es malade ? » « Ah non, 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 je ne suis pas malade, mais c'est moi qui porte le plus gros mot du monde et qu'il est lourd à porter. Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me le prenne un moment, que je puisse aller jouer. » Je vous parle de l'époque où le dromadaire avait le dos plus plat que le plat de ma main. Et quand il a entendu le plus gros mot du monde, il s'est senti pousser une bosse énorme sur son dos. Hey, « Oumba Baye, regarde maintenant, j'ai une bosse sur mon dos, tu peux te la garder, ton plus gros mot du monde. » Et le dromadaire est parti en courant dans la savane, et Oumba Baye s'est retrouvé à nouveau, avec le plus gros mot du monde, à porter sur son dos. Et c'est là qu'il a rencontré la girafe. Ah. « Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Oumba Baye, hein, à te traîner comme ça ? T'es malade ? Ah non, 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 je suis pas malade, mais c'est moi qui ai le plus gros mot du monde à porter sur mon dos. Qu'est-ce qu'il est lourd ! Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me le porte à maman pour que je puisse aller jouer. » Je vous parle de l'époque où la girafe avait un cou comme vous, comme moi. Et quand elle a entendu le plus gros mot du monde, alors son cou s'est mis à pousser, à pousser, à tirer vers le haut. Et du haut, elle a dit à Oumba Baye, hey, « Oumba Baye, regarde ce que tu fais maintenant, j'ai un cou si long !» Et elle est partie en courant dans la savane. Et à nouveau, Oumba Baye s'est retrouvé à porter le plus gros mot du monde et qu'il était lourd. Et c'est là qu'il a rencontré le crocodile. « Ben dis donc, Oumba Baye, là, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Tu te traînes ? T'es malade ? Ah non, 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 je suis pas malade, mais c'est moi qui porte le plus gros mot du monde. Et qu'est-ce qu'il est lourd à porter ? Alors, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide à le porter pour que je puisse vaquer mes occupations. » En entendant le plus gros mot du monde, le crocodile s'est mis à pleurer. C'est depuis ce temps-là que le crocodile a des larmes de crocodile. Oumba Baye à nouveau s'est retrouvé dans la savane à se traîner, et c'est là qu'il a rencontré la hyène. « Bonjour, Oumba Baye, qu'est-ce qui t'arrive, là, hein ? À te traîner comme ça ? T'es malade ? » ?»« Ah non, 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 je ne suis pas malade, mais c'est moi qui traîne le plus gros mot du monde et qui est lourd à porter. Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me le prenne à un moment pour que je puisse vaquer à mes occupations. » En entendant le plus gros mot du monde, la hyène s'est mise à rire, mais à rire. C'est depuis ce temps-là que la hyène ricane. Mais Oumba Baye, à nouveau, s'est retrouvé avec le plus gros mot du monde à se traîner dans la savane, et c'est là qu'il a rencontré le serpent. « Bon, ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, là, Oumba Baye, là, hein ? Traîner comme ça, t'es malade, hein ? Ah non, 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 je suis pas malade, mais c'est moi qui porte le plus gros mot du monde. Et mon Dieu, qu'il est lourd à porter. Alors j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me le prenne un moment pour que je puisse vaquer mes occupations. Alors je vous parle de l'époque où le serpent avait des pattes. Et quand il a entendu le plus gros mot du monde, eh ben, au serpent, ça lui a coupé les pattes. Et depuis ce temps-là, il se traîne sur le sol. Umbabaye s'est retrouvé à nouveau avec le plus gros mot du monde à se traîner dans la savane. Et là, il a rencontré la tortue. Oui, je vous parle de l'époque où la tortue courait très très vite d'un village à l'autre, racontait des histoires des uns sur les autres, ce qui faisait que les villages se battaient les uns contre les autres. C'était une mauvaise langue. Ben alors, Umbabaye, qu'est-ce qui t'arrive à te traîner comme ça? T'es malade? Non, mais c'est moi qui ai le plus gros mot du monde. Et qu'il est lourd à porter. Alors là, la tortue, elle a écouté le plus gros mot du monde. Et puis d'un seul coup, elle se sentit lourde. C'est depuis ce temps-là que la tortue, elle, maintenant, se traîne. Alors à moi, si vous me demandez, mais le plus gros mot du monde, c'est quoi? Eh bien, j'en sais rien. Si vous rencontrez une tortue, demandez-lui. Elle vous dira peut-être.
J'ai appris qu'à Briançon, il y avait eu un défilé pour la Saint-Nicolas. Et j'ignorais que dans notre département, on pouvait fêter cette fête le 6 décembre ou alentour. Donc je vais vous raconter la légende de Saint-Nicolas, la version d'une conteuse de Grenoble, Elisabeth Calandry. Il était une fois trois petits enfants, 1, 2, 3, qui parcouraient les champs pour ramasser les épis de blé oubliés par les moissonneurs. Aujourd'hui, on dirait par la moissonneuse batteuse. Un épi par-ci, un épi par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais à la tombée du jour, quand le soleil a fermé l'œil pour la nuit, les enfants n'étaient toujours pas rentrés. Oh oh, il est tard. Oh oh, il fait noir. Oh, on est perdu! Le vent s'est levé, il a commencé à faire froid et les animaux de nuit sont sortis. Ouh, ouh! Aou! Aou! C'est alors que le plus grand des trois a vu une petite flamme dans une petite fenêtre dans une petite maison. Vite, vers la lumière! Une fois devant la grande porte, ils ont crié « Ohé, bonnes gens! C'est nous! Ohé, ouvrez !»«
Qui va là ?»«
C'est nous, les enfants du paysan, c'est perdu !»«
Ah ! Entrez, entrez, mes petits! Je vais même vous servir à souper !»
L'immense porte s'est ouverte. Un chat a bondi, s'est perdu dans la nuit.
Un homme est apparu. Il avait les cheveux noirs, une barbe noire, des dents noires et un tablier rouge sang. C'était le boucher du village d'à côté. Mais il avait aussi des yeux croches, un nez croche et des idées. Il a fait entrer les enfants. 1, 2, 3. A refermé la porte, a tourné la clé, l'a mise dans sa poche, a sorti son grand couteau et il s'est mis à courir après les petits pour les couper en petits morceaux. Une jambe par-ci, une jambe par-là, un bout d'oreille, un bout d'orteil, une fesse, deux fesses, trois fesses. Puis il a mis tous les morceaux dans son saloir pour les conserver longtemps, longtemps, longtemps. Et puis le temps a passé, a repassé. Et 7 ans plus tard, c'est Saint-Nicolas qui est passé avec son âne qui grignotait les épis de blé oubliés par les moissonneurs ou la moissonneuse batteuse. Et un épi par-ci, un épi par-là, hi-han, par-ci, par-là, par-ci, hi-han. Mais à la tombée du jour, quand le soleil a fermé l'œil pour la nuit, Saint-Nicolas n'était toujours pas rentré. Oh, il est tard. Oh, il fait noir. Oh, je suis perdu. Il a commencé à faire froid. Le vent s'est levé et les animaux de nuit sont sortis. Ouh, ouh. Mais Saint-Nicolas, il les connaît bien, ces animaux-là. Bonne nuit, la chouette. Aou, aou. Bonne nuit, mon loup. Et c'est là qu'il a aperçu une petite flamme dans une petite fenêtre, dans une petite maison. Vite, vers la lumière. Hi-han, hi-han, hi-han. Une fois devant l'immense porte, Saint-Nicolas a crié « Ohé, bonnes gens, aidez-moi ! Ohé, je suis perdu !»«
Qui va là ?»«
C'est moi, c'est Saint-Nicolas !»«
Ah ? Ah ? Oh ! Entrez ! Entrez, je vais même vous servir à souper !»
La porte s'est ouverte. Un chat est entré dans la maison, s'est couché près du foyer. Un homme est apparu. Il avait les cheveux noirs, une barbe noire, des dents noires et un tablier rouge sang. C'était le boucher du village d'à côté. Il avait des yeux croches, un nez croche et des idées...
« Qu'est-ce que je peux vous servir pour le souper ? Voulez-vous du jambon ?»«
Non, il n'est point bon. »«
Ah ? Voulez-vous du veau ?»«
Non, il n'est pas beau. »«
Ah bon ? Ah, voulez-vous de l'oie ?»«
Non, moi, ce que je veux, c'est du petit salé, du vieux salé. » De 7 ans, que tu as dans ton saloir, au fond du couloir. En entendant ça, le boucher du village d'à côté s'est mis à rugir comme un lion. Puis il a disparu comme un lièvre dans la plaine. Saint-Nicolas s'est approché du saloir, a mis 3 doigts et a dit « celle d'été, celle d'hiver ». Celle de jour, celle de nuit, rends-moi les enfants et redonne-leur la vie. Le plus grand des 3 s'est levé et il a dit « Ah, j'ai bien dormi !» À sa suite, le 2e a dit « Ah, j'ai rêvé !» Et le 3e, le plus petit, a dit « Oh, moi aussi, mais j'ai faim !» Eh bien, c'est depuis ce temps-là que Saint-Nicolas est le protecteur des petits-enfants. Et chaque année, le 6 décembre, surtout dans les pays du Nord, il se promène et il distribue des cadeaux aux enfants qui ont été gentils. Mais gare à vous si vous avez été mal poli, car derrière lui, il y a un homme à barbe noire. Les yeux noirs, le nez croche, les yeux croches aussi. Et les idées, c'est le père Fouettard. Alors, attention.